Bienvenue dans ce séminaire de recherche participative de la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Donc moi, je suis Hélène Chauveau, je suis chargée de projet à la boutique des sciences et je vais animer ce séminaire aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette cinquième séance de notre saison 2020-2021 en format webinaire une fois de plus, alors avec les avantages et les inconvénients que cela pose. Et ce séminaire, en fait, pour rappel, donc il prend place dans l'activité de la boutique des sciences, qui est un dispositif de recherche participative qui met en lien la société civile avec le monde de la recherche. Et on propose notamment ce temps d'échange mensuel de bonnes pratiques et de réflexions méthodologiques sur le thème des recherches académiques qui sont coproduites avec les citoyens, qui sont dites donc recherches participatives. Donc les séminaires de la saison dernière et du début de cette année sont d'ailleurs disponibles en podcast sur le site de la boutique des sciences si vous souhaitez les réécouter. Et on se retrouve chaque premier jeudi du mois autour d'exemples de recherche, donc d'exemples très concrets de recherche participative, aussi variées que sur des thèmes comme donc le rôle de la médiation dans les co-recherches, le co-design, les impacts d'une boutique des sciences ou les sciences au jardin, par exemple, le mois dernier. Et en avril, on aura le plaisir d'accueillir notamment William Giacomo Beauchemin, qui nous parlera de culture inclusive, qui est un projet de recherche participative sur les milieux culturels à Montréal. Voilà, donc je vous invite à suivre aussi la séance du mois prochain. Et donc pour ce mois de mars, on est très heureux d'aborder le projet Instruments Voyageurs. En accueillant donc Laura Jouve-Villard et Vincent Véchambre, qui travaillent respectivement au CMTRA et au RIS de Villeurbanne et qui vont échanger avec nous sur cette recherche participative qui a été coportée par le CMTRA, le RIS et le CFMI. Je pense qu'ils réexpliqueront. Donc je vous invite, participants, participantes, à... Oui, j'ai oublié, je voulais vous montrer voilà, le prochain séminaire, la date, et donc c'est possible de s'inscrire sur notre site. N'hésitez pas, bien sûr, participants, participantes, à poser vos questions pendant la présentation sur le chat de Teams avec le logo Converser. Voilà, je pense que vous êtes habitués un petit peu à ces outils maintenant. Je laisse Laura et Vincent se présenter un peu plus en longueur et puis nous dérouler un petit peu ce projet. Et puis on pourra leur poser nos questions d'ici 45 minutes environ. Voilà, je vous laisse dérouler et puis je passe les images dont vous aurez besoin au fur et à mesure, si ça vous va.
Super, ben merci beaucoup Hélène, merci pour l'invitation. J'ouvre la ronde donc, avec ma casquette de chargée de recherche au CMTRA. Donc, c'est un poste que j'occupe depuis maintenant 6 ans au sein de cette association donc, du Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, qui est une association qui a cette année 30 ans. Et dont les locaux sont basés à Villeurbanne, mais qui a un rayonnement régional. Donc, c'est une structure qui est née dans le sillon des CMT, donc des centres de musique traditionnelle, qui étaient dans les années, fin des années 80, début des années 90, un label ministériel voué à donner une plus grande résonance et connaissance aux musiques régionales et à leurs enjeux de transmission, de documentation, de création et de diffusion. Et le CMTRA, comme d'autres CMT, a gardé cette architecture autour de ce cahier des charges, autour des musiques traditionnelles régionales, avec une particularité dans notre cas qui est celle d'une orientation assez franche et historique des recherches et des dispositifs d'accompagnement et de transmission centrés autour des musiques issues de l'immigration, ou en tout cas des pratiques musicales qui ne sont pas celles strictement de la région Rhône-Alpes et aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes. L'autre particularité du CMTRA, c'est que c'est une structure qui a été labellisée en 2015 à titre d'ethnopôle. Donc, je ne sais pas si les participants, participantes connaissent cet intitulé. C'est un label assez peu connu parce qu'il est alloué actuellement à 11 structures en France. C'est un label qui est comment dire, décerné par le ministère de la Culture et plus spécifiquement par la direction du patrimoine et encore plus spécifiquement par le département de la politique scientifique et de la recherche à la direction du patrimoine et qui a donc pour but de soutenir des structures qui mènent une double activité de recherche scientifique, donc dans le champ de l'ethnologie, et d'action culturelle. Les thématiques des autres ethnopôles sont très variées, ça va autant de l'ethnobotanique à la mémoire des métiers portuaires en Normandie, à la question de la création et des langues régionales en Pays basque. Dans notre cas, le projet scientifique et culturel de l'ethnopôle s'est orienté sur le triptyque musique, territoire, interculturalité. Et donc, on travaille à la mise en œuvre de projets de recherche-action et de documentation qui s'intéressent aux dynamiques de circulation culturelle, de transfert culturel, de migration, à travers le prisme des objets musicaux. Donc, voilà un peu pour le cadre, j'allais dire, voilà, du projet associatif du CNTRA. On déroulera tout à l'heure, après la présentation du RIS par Vincent, donc Vincent Deschamps, son directeur, la genèse du projet Instrument Voyageur, mais je vais déjà vous donner ce cadre du projet associatif du CNTRA et puis me faire la porte-parole de l'ENM, donc, et non le CFMI, mais c'est normal que Hélène ait fait voilà, la confusion entre CFMI et ENM, parce que ce projet a pu se lancer grâce aussi à deux anciennes étudiantes du CFMI, donc du Centre de formation des musiciens intervenants, qui est rattaché à l'Université de Lyon 2, qui ont pu bénéficier d'un stage grâce au soutien de la boutique des sciences. Donc, elles étaient étudiantes au CFMI, mais le projet Instrument Voyageur s'est construit de concert avec l'ENM de Villeurbanne, donc l'École nationale de musique de Villeurbanne, qui est un conservatoire à rayonnement communal et qui a la particularité dans le paysage des conservatoires de France de s'être très tôt intéressé à une diversité de répertoires et de modes de transmission de la musique. Et voilà, il en résulte une architecture des départements d'enseignement musicaux, dramatiques et chorégraphiques dans cet établissement qui est très ouvert sur des mondes musicaux, on va dire extra-européens, ou en tout cas qui ne sont pas strictement cantonnés à la musique classique occidentale. L'autre particularité de l'ENM, qui fait date et figure d'exception encore aujourd'hui dans le paysage de la pédagogie musicale en France, c'est que c'est un équipement qui a toujours mis au centre de ses priorités une inscription très forte de l'établissement dans les réalités culturelles de son territoire. Donc avec des actions culturelles dans les quartiers, avec des dispositifs d'enseignement musical hors les murs du conservatoire, dans les écoles, et avec la volonté de faire résonner aussi intramuros dans les murs du conservatoire les pratiques culturelles des habitants de Villeurbanne. Voilà, donc ça, c'est un élément important à prendre en compte, parce que c'est aussi dans cette dynamique de d'écoute des musiques pratiquées par les habitants que le projet Instrument Voyageur a pu s'inventer et se mettre en œuvre. Je laisse la parole à Vincent pour le RIS.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, quelques mots sur le RIS, qui a la particularité d'être un équipement municipal, tout d'abord, donc qui est une composante finalement de la ville de Villeurbanne, qui a maintenant un peu plus d'une douzaine d'années d'existence et qui, personnellement, m'a conduit à quitter l'enseignement supérieur et la recherche, compte tenu de ce que j'ai ressenti, à savoir une attractivité pour un équipement tout à fait original, hein, puisqu'il a cette particularité d'être pluriel, hybride, de rassembler différentes compétences, différentes ressources pour explorer avec les habitants les patrimoines, les cultures, les mémoires de ce territoire villeurbanais. Voilà en substance hein, ce qu'est cet équipement. J'ai le grand privilège en ce moment d'être un directeur d'équipement culturel pas trop frustré, dans le sens où on est ouvert, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Et l'exposition qui est une composante hein, du travail que nous avons mené ensemble avec le CM Terra et l'ENM, à cette particularité que je tiens à vous dire d'emblée, c'est qu'elle est ouverte. Voilà. Donc, même si on ne peut pas tout faire, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec Laura, que tout ce qu'on avait prévu finalement à partir de cette démarche initiale de recherche, il n'empêche que voilà, c'est un équipement qui pour l'instant vit grâce à la présence d'une médiathèque, d'archives, et on s'est en quelque sorte assez logiquement permis de laisser ouverte la porte de l'exposition qui est, je dirais, en immédiate proximité avec la médiathèque. Voilà en substance. Une dernière chose peut-être, c'est que dans cet équipement, parmi les nombreuses composantes, j'en ai mentionné certaines, il y a aussi un pôle recherche, donc ce qui a été d'emblée, je dirais, aussi un des points forts du projet, c'est qu'il intègre à côté donc, de professionnels de la culture, des chercheurs en résidence qui font des thèses ou qui font des stages longs recherche en master de 6 mois. Voilà. Pour la présentation succincte. Je te laisse, Laura, du coup, nous présenter la genèse de ce projet Instrument Voyageur.
Oui. Alors, le projet Instrument Voyageur, pour faire vraiment sa préhistoire, il prend corps en fait dans les années, enfin vraiment ces prémices à une époque où on savait pas, personne ne savait encore qu'on allait développer quelque chose comme ça à Villeurbanne. Il prend corps dans la première vie professionnelle de l'ancien directeur de l'ENM, donc Martial Pardo, qui a dirigé un conservatoire à Caen en Normandie pendant une dizaine d'années et qui à cette occasion-là avait développer une forme de recherche-action, de recherche participative pour connaître et valoriser les pratiques musicales des habitants de l'agglomération de Caen. Et cette recherche a donné lieu à une publication qui a fait date aussi un peu dans le milieu de l'ethnomusicologie appliquée ou des conservatoires ancrés dans les réalités de leur territoire. C'est une publication qui s'intitule « Le tour du monde en 25 voisins » qui a été éditée chez Actes Sud dans les années 90 et qui a beaucoup marqué le territoire, qui a beaucoup marqué le projet d'établissement aussi à Caen et qui a également donné lieu à une exposition d'instruments de musique, une exposition temporaire à Caen pendant laquelle les habitants rencontrés issus des quatre coins du monde, ont prêté leurs instruments de musique et sont venus les jouer dans l'enceinte du musée de la communauté de communes, dont j'ai oublié le nom. Je crois que Vincent, tu connais mieux que moi ce musée, mais en tout cas, voilà, c'est un musée public à rayonnement, je crois, intercommunal, voire départemental. Et Martial Pardo est arrivé à la tête de l'ENM il y a 20 ans avec l'idée de créer un espace d'exposition ou en tout cas de créer un espace dans la ville pour que les pratiques musicales de ses habitants résonnent et pas spécifiquement dans le conservatoire, dans des cadres pédagogiques, mais que ce travail soit le socle de rencontres entre des élèves de l'ENM et des habitants hors cursus. Donc ça, c'est vraiment la préhistoire du projet. Et c'est vrai qu'au sein du conseil scientifique de l'Ethnopôle, on a souvent échangé sur cet héritage avec l'envie d'essayer de développer une histoire, pas la même, mais en tout cas des dynamiques et des concernements, j'allais dire, similaires sur le territoire villeurbanais. Cela répondait aussi à un intérêt pour le CMTRA qui a toujours beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle des collectages, en tout cas des recueils de témoignages et de répertoires plutôt chansonniers. Ça répondait à une volonté d'ouvrir un peu le champ de nos recherches au-delà des répertoires chansonniers pour s'intéresser plus spécifiquement aux instruments de musique qui évidemment sont toujours présents dans nos actions, mais plutôt au titre d'accompagnateur des champs qui sont collectés par les salariés et par les bénévoles administrateurs du CMTRA depuis même les années 70, avant même que le CMTRA se constitue en une structure associative. Donc voilà, il y avait un intérêt d'ordre scientifique pour le CMTRA de s'intéresser aux instruments. Et cela nous permettait aussi de mettre à l'épreuve d'un projet culturel partenarial une problématique qui est assez centrale dans le milieu de l'ethnomusicologie, qui est celle de la classification des cultures et plus spécifiquement de la classification des instruments de musique. Donc, c'est un champ de l'anthropologie, de l'ethnomusicologie qu'on appelle l'organologie. Qui est donc l'art et les techniques de ranger les instruments de musique dans des critères de description matérielle, acoustique, qui seraient à visée universelle. Et donc, évidemment, comme on s'en doute, l'organologie telle qu'elle s'est construite en Europe, on va dire, en Europe occidentale, n'est pas du tout la même que celle qui est à l'œuvre depuis des millénaires en Asie du Sud-Est ou même en Amérique du Sud. Les critères de classification des instruments et donc par suite de leurs ancrages culturels ne sont pas les mêmes dans un côté ou un autre du globe. Donc c'était une problématique qui nous intéressait dans le sens où ce projet instrument voyageur nous donnait l'occasion de monter une sorte de musée d'instruments de musique inversé parce que ce ne serait pas une exposition avec des instruments de musique qui viennent du monde entier et qui sont exposés dans un équipement local, mais plutôt une exposition qui donne à voir des instruments de musique qui sont joués ou qui sont détenus dans les appartements des habitants de villes urbaines et qu'on donne à voir selon une classification qui est propre à Villeurbanne ou en tout cas propre aux rencontres qu'on a faites avec les habitants de Villeurbanne. Donc on en parlera tout à l'heure plus en détail sur la construction du scénario aussi scénographique du projet Instrument Voyageur, mais le propos a vraiment été de partir des récits et des objets instruments qui ont été rencontrés au cours de nos enquêtes de terrain et de construire des classifications propres à ces rencontres et qui ne mettent pas l'accent sur les qualités acoustiques, organologiques, matérielles de ces objets, mais plutôt sur le lien qui lie ces objets à leurs propriétaires. Voilà, donc ça répondait vraiment à différents objectifs qui sont propre au projet scientifique et culturel de l'ethnopôle au CMTRA. Pour l'ENM, évidemment, c'était une façon de réaliser ce projet de longue date, de travailler sur les instruments de musique et les patrimoines musicaux des habitants qui existent, qui habitent sur le territoire villeurbannais. Une organologie sociale, Gilles, exactement, une forme d'organologie sociale. C'est un bon résumé. Voilà, ça avait un enjeu à la fois de politique d'établissement, c'était clairement inscrit dans le projet d'établissement 2017-2021, entre autres. Et ça permettait aussi d'inciter l'équipe enseignante de l'ENM à créer plus de liens avec les pratiques musicales des habitants et peut-être même à rencontrer des musiciens professionnels ou semi-professionnels avec lesquels ils pourraient inventer une collaboration, qu'elle soit d'ordre pédagogique, événementiel, d'action culturelle, de médiation culturelle. Voilà, donc ça c'était aussi un intérêt pour l'ENM. Et pour le RIS, je laisse Vincent répondre, enchaîner.
Alors pour le RIS, je vais faire un tout petit détour pour repréciser finalement les enjeux pour notre équipement de s'être lancé dans cette aventure. Sachant, Laura l'a peut-être déjà dit, mais que ce qui a facilité la chose, c'est qu'on se connaissait déjà bien. Hein, on se connaissait déjà bien entre ces trois partenaires qui sont proches de la et aussi sur les démarches qui sont les leurs. Donc, le petit détour, c'est de vous dire que le premier directeur du RIS, Xavier Delasselle, qui est aujourd'hui directeur des musées Gadagne, a eu l'intuition de faire adhérer son institution à une fédération des écomusées et musées de société. Alors pourtant, effectivement, en toute rigueur, nous ne sommes pas un musée. Nous n'avons pas de réserve. Nous n'avons pas d'objets en réserve. Enfin, quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans les archives municipales, on a quelques incongruités, quelques objets, quelques bustes, quelques tableaux, etc. Mais voilà, ce ne sont pas les missions premières d'archives que de conserver des documents en trois dimensions de ce type-là, de conserver des objets. Donc, nous ne sommes pas un musée en toute rigueur, mais d'un certain point de vue, on peut considérer que finalement, ce que l'on va montrer procède de ce territoire. En quelque sorte, les richesses, les ressources que l'on veut partager, elles sont à chaque fois, en quelque sorte, à chaque projet, et chaque année, nous avons une thématique forte qui nous permet de construire une saison culturelle. L'enjeu, chaque année, est donc de, finalement, non pas d'aller voir dans nos corpus d'objets, dans nos réserves, ce qui ira bien, mais de construire les relations qui vont permettre justement, sur une thématique donnée, de faire s'exprimer en quelque sorte les habitants, de faire s'exprimer la mémoire dont ils sont porteurs, et de faire s'exprimer de manière un peu plus métaphorique, je dirais, ce territoire. Dernier sur la thématique de l'approvisionnement alimentaire, hein, une thématique fondamentale qu'on retrouve parfaitement bien en temps de confinement, par exemple. On était précédemment sur les thématiques de l'engagement, finalement, percevoir l'engagement comme une forme de patrimoine culturel immatériel. Et donc, cette année, sur la question des instruments de musique, je dirais qu'on est allé, grâce à ce partenariat fort avec le CMTRA et avec l'UNM, encore plus loin, je dirais, que les années précédentes, dans le sens où vraiment tout ce qui a été, mobilisé pour finalement montrer un certain nombre de résultats finalement de ce processus que nous avons engagé ensemble, tout cela procède effectivement des rencontres qui ont été faites sur ce territoire villeurbanais. Que ce soit les témoignages qui sont la matière première, que ce soit les objets eux-mêmes qui, comme l'a dit Laura, nous ont été confiés, hein, ce qui suppose de construire une vraie relation. Voilà, tout cela, nous ne l'avons pas retiré d'un stock existant, mais nous l'avons construit ensemble dans le cadre de ce partenariat, avec cette dimension aussi d'apport de la recherche au départ, sur lequel je pense Laura aura l'occasion de revenir. Voilà, donc on est de ce point de vue-là, comme je le disais, extrêmement satisfait, parce que on n'aura jamais été autant, je dirais, ce musée de territoire, entre guillemets, hein, même si effectivement nous décrire uniquement comme musée ne suffirait pas à dire ce que l'on essaye de faire.
Eh ben, merci Vincent. Déjà, juste une question technique. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Enfin, il n'y a pas de problème de réseau. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a. Ok, super. Parce que sinon, je peux changer de pièce.
Si tu veux que je partage aussi d'autres images. Bon, j'ai partagé l'affiche pour l'instant, mais voilà, si tu veux que je partage autre chose, n'hésite pas.
Ouais, et ben c'est effectivement le bon moment. Alors, dans le dossier Dropbox que tu as reçu, tu peux ouvrir en diaporama le dossier portrait habitant instrument.
Ok, très bien.
Merci. Donc, c'est un florilège de photos qui ont été prises au cours des rencontres avec les habitants. Donc là, je pense que c'est le moment d'entrer dans le sujet de cette question d'une recherche participative. Alors, je pense qu'on y apportera tout à l'heure, enfin au fil de nos échanges, une certaine relativité, parce que je ne sais pas si on peut à proprement parler appeler le projet Instrument Voyageur, le qualifier en tout cas de recherche participative, dans le sens où ce ne sont pas les habitants qui ont directement écrit, co-écrit la résultante, enfin la restitution de cette enquête, c'est-à-dire en grande partie le projet scénographique de l'exposition. En revanche, on a veillé à les inclure dans des moments stratégiques de nos travaux. On a notamment organisé une journée qu'on a appelée instrumentaton, un peu sur le modèle des hackathons, des marathons d'idées, pour que un certain nombre d'habitants invités à cette journée, donc ils étaient 4 ou 5 je crois, d'habitants qui ont été rencontrés parce que propriétaires d'instruments de musique, puissent participer à l'élaboration des grandes orientations du scénario scénographique. Mais ça a été quelque chose d'assez ponctuel et qui n'a pas concerné tous les habitants qui ont été rencontrés. La notion de participation, elle est tout de même centrale dans le projet et elle est liée en grande partie, comme le disait Vincent, au fait que ce projet a été totalement construit à partir des témoignages des habitants rencontrés et aussi, mais peut-être surtout, grâce à leurs prêts d'instruments de musique. Il y a environ 70 instruments de musique dans cette exposition qui sont tous prêtés par des habitants de Villeurbanne. Donc pour une durée quand même de 10 mois. Je pense que ça peut laisser entendre l'importance du lien qu'il y avait à construire avec eux pour que la matière essentielle du projet puisse être mise à disposition du public. Ces habitants, ils ont été rencontrés donc notamment par le CMTRA et en particulier par Maïlis Daubercy et Siloé Douillard, qui sont donc les deux anciennes étudiantes du CFMI qui ont réalisé ce stage grâce au soutien de la boutique des sciences, et stage grâce auquel le projet a réellement pu se lancer, vu qu'elles ont fait un travail vraiment de fourmi, quoi, de la dentelle ethnographique, on va dire, pour pouvoir passer du temps sur le terrain, entrer dans les commerces, rencontrer des associations, passer du temps des fois dans les files d'attente aussi, que ce soit des commerces ou des équipements culturels au moment des inscriptions annuelles à la MJC ou même à l'ENM, ou dans les files d'attente devant le cinéma Le Zola à Villeurbanne. Il y a eu un gros travail de bouche à oreille grâce à des relais des associations ou des personnes relais qu'on connaissait déjà antérieurement au CMTRA. Donc on a essayé de multiplier les entrées pour rencontrer des propriétaires d'instruments de musique, habitants de Villeurbanne, mais habitants au sens large, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas cantonné à une notion d'habitant synonyme de domiciliation à Villeurbanne, mais à des habitants dans le sens de personnes qui pratiquent régulièrement la ville de Villeurbanne, que ce soit pour des raisons professionnelles ou d'engagement associatif, c'est surtout ça, quoi, domiciliation, engagement associatif ou lieu de travail. Donc nous n'avons pas rencontré que des gens domiciliés à Villeurbanne, mais généralement des gens qui passent beaucoup de temps, pour une raison ou pour une autre, à Villeurbanne. La difficulté, ça n'a pas été tant de rencontrer des musiciens, déjà parce que le CNTERA est une association identifiée sur le territoire comme travaillant sur les musiques traditionnelles, régionales et dites du monde. Mais ça a plutôt été la difficulté, ça a plutôt été de rencontrer des propriétaires d'instruments non musiciens. Et c'était vraiment quelque chose de très important pour nous de pouvoir rencontrer des propriétaires d'instruments qui avaient des choses à raconter à leur propos, pas forcément pour des raisons musicales ou de carrière artistique, mais des propriétaires d'objets qui d'objets résonnants, mais qui ne résonnaient pas forcément et qui souvent d'ailleurs étaient cachés dans des placards ou des tiroirs depuis des générations, mais qui pouvaient nous faire travailler aussi l'instrument de musique comme un objet mémoriel, en tout cas, voilà, nous faire travailler une approche biographique des objets. Et ça, ça n'a pas été si simple, parce que effectivement, quand on demande aux gens « est-ce que vous avez un instrument de musique chez vous ?», généralement, c'est plutôt les musiciens qui répondent. Mais pour que les gens se sentent concernés par une telle enquête, sans être musicien, amateur ou pas, ça a été plus complexe. Et sur ce plan-là, les quelques permanences qu'on a pu faire grâce à la ville, hein, de Villeurbanne, sur les marchés alimentaires de la ville, a été assez déterminant. C'est vraiment à ces occasions-là, donc d'installation d'un stand avec une affiche du projet, avec des flyers sur le projet, avec des panneaux aussi en carton qu'on brandissait dans les allées du marché avec des phrases un peu d'accroche comme « qu'est-ce qui cloche chez vous ?» qu'on a pu rencontrer des gens qui avaient un harmonica, je vois Philippe Bruno, un derbouka, une sitar tyrolienne appartenant à une grand-mère dont on ne connaissait pas l'histoire, de la sitar tyrolienne, pas de la grand-mère, qu'on a pu rencontrer voilà, ce genre de profil qu'on aurait eu beaucoup de mal à identifier à travers nos réseaux de diffusion et de communication et de partenariats habituels, qui sont les nôtres au CMTRA, mais qui sont aussi ceux voilà, sur un autre terrain du RIS ou de l'ENM. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce tâtonnement qui nous a accompagnés pendant toute l'année et demie de recherche de terrain sur des formats de rencontres et d'impulsions de rencontres qui soient à même de nous faire rencontrer, voilà, d'identifier des habitants qui ne sont pas périmétrés sur les spectres d'action du projet associatif du CMTR. Encore une fois, les marchés, les files d'attente, les commerces ont été assez déterminants sur ce plan. Vincent, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou j'entre sur le sujet de la construction vraiment du scénario scénographique?
Peut-être très brièvement pour d'abord confirmer qu'effectivement cet enjeu-là de devoir pour nous et cette année en particulier, comme on le disait, construire la relation, aller à la rencontre d'eux, il a pu être cette année d'abord encore plus, comment dire, on a été mieux armés, voilà, je vais dire ça comme ça, pour nous renouveler dans nos capacités à aller au-devant des gens, donc parce qu'on était plus nombreux, parce qu'on a été aussi en capacité de croiser un peu nos expériences, hein. Tu évoquais par exemple ces méthodes d'interpellation dans l'espace public qu'on avait pu nous tester un temps sous l'intitulé Brigade Mobile, que vous avez en quelque sorte, que vous êtes approprié, que vous avez fait évoluer, voilà, tout ça nous a effectivement voilà, permis de, je dirais, peaufiner des méthodes importantes pour justement aller au-devant d'eux. Et tout l'enjeu, tu l'as bien exprimé sur cette question des instruments de musique, hein. Moi, je suis musicien, je suis légitime. Moi, je ne suis pas musicien, je n'ai rien à vous dire. Cet enjeu-là, on le retrouve sur toutes les thématiques, évidemment. Il est de notoriété publique, plein de gens n'auront absolument rien à nous dire, n'auront absolument rien à partager sur quelque thématique que ce soit. Et tout l'enjeu, c'est effectivement, parce que nous, on y croit, parce qu'on a cette conviction chevillée au corps, tout l'enjeu, c'est de mettre en confiance, de concerner finalement des personnes qui ne sont pas, qui ne se sentent pas les plus légitimes, pour qu'elles finalement elles nous livrent des choses, des objets, des témoignages qui sont extrêmement précieux, bien souvent. Ça a été le cas sur ces instruments de musique, ça a pu être le cas sur d'autres sujets précédemment. Voilà, donc effectivement, l'instrument permet de très concrètement de questionner cet aspect majeur de je me sens légitime ou je ne me sens pas légitime. Pour en parler et pour ensuite partager cela, hein. S'exposer, ça ne va pas de soi, par exemple.
Peut-être là-dessus, parce que c'est vraiment au cœur des questionnements qu'on a dans ce séminaire sur la recherche participative. C'est vraiment intéressant les mots que vous mettez dessus sur cette question de légitimation, des paroles qui se sentent jamais suffisamment légitimes pour s'exprimer. Est-ce que vous avez rencontré peut-être des résistances ou des remises en question, alors de la part des habitants eux-mêmes, j'imagine, voilà, des résistances à ne pas se sentir légitime, aussi des résistances de la part des sachants légitimes classiques à cette démarche elle-même, en fait, d'aller interpeller des habitants. Voilà, comment ça s'est passé dans vos institutions respectives?
Alors les résistances, alors je ne sais pas si ça, c'est des résistances, mais en tout cas il y a eu deux complexités à prendre en compte dans l'avancement de nos enquêtes et des recueils de témoignages. La première, mais qui elle aussi n'est pas liée, comme tu le disais Vincent, spécifiquement au champ musical. C'est ce qu'on appellerait dans le champ de l'anthropologie des questions de don contre don, où quand on passe du temps avec des musiciens professionnels, voilà, qu'on leur prend 2 heures, des fois plus, pour qu'ils nous racontent leur parcours, leurs instruments, qu'ils nous les montrent, qu'ils nous expliquent aussi, parce que on en parlait tout à l'heure, mais il y a énormément de contenu sur l'histoire culturelle des instruments de musique qui ont été clairement coélaborés avec les habitants. Donc non pas dans le sens où ils ont participé à l'écriture des cartels de l'exposition, mais en revanche, les connaissances qu'on a pu drainer sur l'histoire des tambourins à travers les continents, je donne un exemple parmi d'autres, on a été clairement accompagnés par certains musiciens professionnels ou semi-professionnels qui ont été rencontrés au cours de ce projet. Donc, une première, voilà, encore une fois, pas résistance, mais complexité à laquelle on a pensé dès les débuts de ce projet, c'est qu'est-ce qu'on leur donne en retour. Et c'est là où on n'en a pas encore parlé, mais le volet de la programmation autour de ce projet a été assez déterminant. Puisqu'il a été prévu entre les services de programmation du RIS, de l'ENM, en tant qu'équipement recevant du public, de faire la part belle à des présentations, des concerts, des rencontres avec des habitants, et donc rencontres rémunérées en tant que musicien, ou des ateliers de fabrication d'instruments rémunérés, eux aussi. Donc voilà, ça fait partie des premiers freins qu'on a anticipés, et en tout cas à des questions d'éthique, de recherche participative, ou en tout cas de projets mobilisant des habitants, qu'on a eu en tête avant même de commencer le terrain proprement dit. Et la deuxième difficulté, mais du coup on en a bien parlé, hein, ça a été celle de convaincre certains habitants dont on savait qu'ils avaient des instruments de musique de bien vouloir nous rencontrer et nous accueillir chez eux, ce qui n'est pas anodin non plus, puisque c'est pour la plupart des entretiens qui ont été menés chez eux. Donc souvent, alors ça c'est pour le coup quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais on s'est souvent retrouvé dans la situation de conjoints ou conjointes qui nous ont dit « Ah ben mon mari ou ma femme, il a un instrument de musique, bon, il ne vous le dirait pas directement comme ça, mais il a vraiment plein de choses à raconter, je vais insister ». ou alors les enfants qui ont poussé les parents à venir nous raconter des histoires sur des instruments abandonnés depuis longtemps. Voilà, ça a été des relais un peu spontanés qui nous ont aidés dans, voilà, dans la rencontre avec des gens qui spontanément ne se seraient pas sentis légitimes à participer à des entretiens portés par des équipements, des institutions culturelles villeurbanaises sur les instruments de musique. Donc, il y a eu à la fois des lieux d'accroche, donc encore une fois, marché, file d'attente, lieu informel, hein, Marguerite de Chalandard qui apparaît sur l'affiche du projet, elle a été rencontrée sur le parking du CMTRA, elle avait son concertina dans sa voiture et elle en jouait en attendant son cours de danse irlandaise à la MJC. On a pu l'aborder comme ça. Les lieux de rencontre étaient déterminants, mais dans certains cas, les membres de la famille pas directement concernés ont été déterminants aussi.
Peut-être un témoignage complémentaire à celui de Laura sur cette question de comment on s'y prend pour mettre à l'aise, pour concerner, pour embarquer finalement dans notre aventure des personnes qui ne seraient pas spontanément venues à notre rencontre. Il se trouve que durant ce qu'on peut appeler maintenant le grand confinement, le vrai, la Ville de Villeurbanne avait mis en place un dispositif d'appel dans des familles qui étaient identifiées comme des familles qui sont suivies par les services sociaux et dont on pouvait craindre qu'elles soient tout particulièrement comment dire, en difficulté. Grandement perturbé par le contexte, et en particulier du point de vue du lien aux enfants. Et donc, un certain nombre d'agents de la ville ont été sollicités pour faire des appels téléphoniques d'échanges, comment dire, dans une logique aussi éducative, d'éducation culturelle. Et de ce point de vue-là, donc, nous avons été plusieurs agents au RIS à proposer de participer à ces appels téléphoniques dans des familles, d'ailleurs souvent issues de l'immigration, souvent exilées, et avec, du côté des parents en particulier, parfois des difficultés de compréhension, d'intercompréhension du point de vue des langues. Et donc, on avait proposé, nous, d'intervenir sur cette question des instruments de musique. On s'est dit, à tous les coups, on va tomber dans des familles où il y aura des instruments de musique. Et bien, ça n'a pas loupé. Il y avait effectivement des instruments, et avec les enfants qui, eux, avaient une aisance linguistique en français, ce qui nous a permis de bien échanger, eh bien, on a pu comme ça collecter des petites perles de la place que ces instruments occupent dans l'intérieur familial, dans les échanges intrafamiliaux, dans les transmissions entre générations, mais aussi dans les circulations concrètes, géographiques, certains de ces instruments ayant effectivement voyagé depuis la Géorgie, depuis l'Afghanistan, la Syrie, pour citer quelques exemples. Voilà, c'était un moment très, très intéressant, et je dirais humainement, et sur le plan méthodologique aussi, que d'aller finalement au-devant d'eux, de cette manière-là.
Oui, complètement. Tu fais bien, Vincent, de revenir sur ce grand confinement et sur les questionnaires et puis les coups de téléphone que vous avez pu passer, parce qu'ils ont été assez déterminants, même pour la suite du projet. Tout d'un coup, les gens se sont mis à réagir beaucoup plus spontanément aux demandes numériques, et on a recueilli quand même, je crois, une quarantaine, cinquantaine de questionnaires. Le questionnaire a été relayé par la ville, mis en ligne sur les outils web de la ville de Villeurbanne, et ça nous a permis de rencontrer des profils tout à fait différents de ceux qu'on avait pu rencontrer sur le terrain, on va dire en chair et en os. Et l'autre chose que ça me rappelle, c'est qu'on s'est rendu compte aussi à cette occasion-là que dans nos rencontres in situ, On rencontrait surtout des propriétaires d'instruments un peu originaux, exceptionnels. Une sitar tyrolienne, un cor des Alpes, un ukulélé. Ukulélé, pas celui qu'on voit à l'écran et qui est très répandu et qu'on a classé dans notre catégorie des instruments planétaires, mais des ukulélés polynésiens. En fait, les gens venaient surtout avec des propositions de récits autour d'instruments de musique qu'on n'a pas l'habitude de voir fréquemment. Et ça, je pense que c'est dû à la fois au fait que quand il y a une demande d'histoire, de recueil, de récits sur un objet ou une partie de sa vie, on a tendance à aller chercher l'originalité, l'exceptionnel, ou l'objet qui sort un peu du lot. Et c'est dû aussi au fait que le CEMTERA est un centre de musique traditionnelle Rhône-Alpes. Donc, et nous, dans nos filtres, et peut-être et sûrement dans les réceptions qu'on pouvait avoir des habitants qu'on essayait de rencontrer, ça s'est plutôt naturellement orienté vers des instruments propres aux musiques traditionnelles. Donc finalement, on a eu très, très peu de propositions sur des violons, des pianos, des violoncelles, des clarinettes, alors que dans ces questionnaires, on a pu se rendre compte que il y avait beaucoup plus d'instruments plutôt issus de la musique classique occidentale symphonique, et que d'autre part il y avait beaucoup d'histoires sur des pianos comme un peu des meubles de famille, et on a reçu pas mal de témoignages autour de des pianos, alors que sur place dans nos brigades mobiles, pour reprendre le vocabularisien, on a surtout rencontré des instruments plutôt issus de musique traditionnelle, on va dire extra-européenne. Donc ça fait partie aussi des surprises un peu méthodologiques, et puis qui nous ont donné l'occasion d'avoir une posture aussi un peu réflexive sur nos façons de mener nos enquêtes et de se confirmer que on ne fait jamais du recueil de la collecte ad hoc, c'est-à-dire comme si on n'avait que à se pencher sur le terrain et aller cueillir des objets préexistants sur lesquels on n'avait aucun impact, comme on cueille des fleurs dans un champ. Notre posture, nos modes d'accroche et ce qu'on charrie avec nous institutionnellement orientent forcément le terrain et ce qu'on y trouve. Je vois qu'il y a deux questions de Marie-Pierre et de Gilles. Alors, on a exclusivement collecté et enregistré hors concert. Les enregistrements qui ont été faits n'ont été faits que dans des contextes de rencontres intérieures individuelles et souvent chez l'habitant. On n'a fait aucune captation de concerts ou de cours ou d'ateliers. Ça s'est fait exclusivement dans un contexte intime et individuel. Et Marie-Pierre qui demande la différence entre recherche participative et recherche collaborative. Bon, on en fait. Oui, peut-être Vincent, je te laisse enchaîner là-dessus parce que il est. Ah oui, brigade mobile, oui. Oui, sur la recherche participative et recherche collaborative, Vincent, tu veux prendre le relais?
Tu me laisses pas la tâche la plus simple, Laurent. Je compterai sur toi aussi pour faire du ping-pong, bien sûr. Merci Marie-Pierre pour cette question de fond, évidemment. C'est vrai que moi, je parlerai dans ce cas-là, peut-être pour faire un premier détour, de projets collaboratifs, en tout cas, si on conçoit que dans ce projet-là, il y a de la recherche, d'ailleurs à toutes les étapes, dans la mise en place de dispositifs qu'on vient de décrire, dans l'exploitation de matériaux collectés, dans aussi il y a un projet éditorial qui, je laisserai Laura d'ailleurs en dire un mot, qui sera plutôt un projet qui viendra clore en quelque sorte Cette édition viendra clore ce grand projet de, à la fois de recherche et projet culturel. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut parler de peut-être plus de projet collaboratif que de projet participatif au sens plein du terme. Mais effectivement, on a, je pense, laissé des moments, des occasions de collaboration, de contribution, et dont certains, d'ailleurs, des personnes, certaines des personnes rencontrées ont pu se saisir, que ce soit pour justement elles-mêmes s'interroger par notre interpellation, s'interroger sur finalement leurs propres pratiques, leurs propres instruments, et d'un certain point de vue se mettre en position hein, aussi de réflexivité, et de ce fait-là aussi de bien sûr de nous enrichir nous-mêmes dans notre collecte. Donc certains effectivement ont été plus que voilà, on était plus qu'acteurs, je dirais, du processus. Des espaces aussi ont été laissés, malheureusement, on ne peut pas forcément les vivre en ce moment. Comme le disait Laura, du point de vue de, cette fois-ci, la programmation culturelle, c'est-à-dire, c'était prévu finalement que cette exposition, elle résonne aussi avec des moments de conférences, de conférences musicales, dans l'idée effectivement où on avait bien identifié qu'on avait là des experts qui étaient tout à fait partants, même si on est dans une logique d'échange qui est d'ailleurs importante, hein, mais tout à fait partants dans cet échange-là pour venir parler de, par exemple, si on prend un expert un peu particulier, puisqu'il est, je crois, le seul en France, de la manière dont on fabrique des flûtes shakuhachi, des flûtes japonaises, tout en, effectivement, l'idée, c'était de partager cela aussi en termes de concert également. Voilà. Donc, il y a eu des moments importants. Laura a aussi évoqué ce moment de l'instrumentaton, où on a aussi rassemblé des professionnels de la culture, des chercheurs, quelques habitants, entre guillemets, que parmi ceux, en tout cas, qu'on avait rencontrés. Ça a été aussi un moment de partage et où la collaboration s'est faite. Voilà, on est au moins sur ce niveau-là de la collaboration du dispositif qui fait qu'à un moment donné, en tout cas, les uns et les autres sont sur une égalité, voilà, et quelle que soit finalement leur provenance, il n'y a pas le professionnel des musées qui va être celui qui sait, et puis la personne qui ne fait que donner qui ne fait que prêter, mais effectivement le dialogue s'est noué et il s'est construit quelque chose, évidemment, dans cette relation-là, il s'est produit des connaissances, des questions ont été reformulées, et de ce point de vue-là, je pense que ça a été assez fructueux. Voilà, si on va focaliser vraiment sur l'aspect de la recherche elle-même, peut-être que là je vais de nouveau te renvoyer la balle, Laura.
Oui, bah effectivement, hein, c'est enfin, en tout cas pour revenir sur la question de Marie-Pierre, on n'a jamais échangé vraiment profondément là-dessus au sein de cette équipe des trois partenaires, mais je pense que on peut s'accorder sur le fait qu'il s'agissait davantage d'une recherche collaborative avec un enjeu très fort d'ailleurs autour de la gouvernance du projet et de la recherche d'un langage commun, d'un calendrier commun, de modes de travail collectifs qui conviennent à tout le monde et qui nous demandaient à tous d'opérer des petits déplacements de nos habitudes de travail habituelles et à l'échelle des individus et à l'échelle des institutions. Ça a été un enjeu fort du projet et qui nous a pris du temps et qui était vraiment vraiment indispensable pour la bonne tenue du projet et dans ses contenus et dans ses formats. Donc de ce point de vue-là, il y avait plus un enjeu de collaboration et de composition, de conciliation des méthodes, des langages et des objectifs que de participation directe des habitants Enfin, autrement dit, on n'aurait pas pu être sur tous les fronts. Et oui, effectivement, la participation s'est faite plutôt sur des moments ponctuels, sur des moments ponctuels liés à l'écriture du scénario scénographique et à la construction de la programmation. Donc à travers des conférences musicales menées par les habitants, des ateliers de facture instrumentale, etc., etc. Je remonte dans les questions. Donc les critères de classification des instruments, bah ça on va vous en parler en vous montrant un peu les résultats de l'exposition. Ils se sont construits là plutôt en interne avec Anne-Marie Doledec qui est la responsable des expositions et de la valorisation de la recherche au RIS. Vincent et moi, c'était d'ailleurs pendant le premier confinement du printemps dernier où du côté du CMTRA, on a fait un premier découpage des entretiens sonores. On a essayé de répartir des extraits de ces entretiens dans des thématiques un peu différenciées mais qui se recoupaient. Et à partir de là, on a travaillé à l'écriture des différents espaces de l'exposition eux-mêmes. On avait quand même un schéma sur lequel on s'était tous accordés avant d'entrer vraiment dans le dur du montage de l'exposition. Un schéma basé sur des échelles, en fait. L'échelle de la relation de l'homme à l'instrument sur vraiment une échelle intime, de la vie intime, la vie familiale des personnes. On avait aussi l'échelle communautaire dans le sens de créer des communs à travers la musique et des espaces collectifs à travers la musique, donc avec tout un travail très lié aux archives de Villeurbanne, donc abritées par le RIS, sur les sociétés musicales, les harmonies municipales, les fanfares, les orphéons, les chorales qui ont fait résonner la musique dans la ville pendant tout le XXe siècle, quoi, enfin jusqu'aux années 70. Il y avait aussi l'enjeu de valoriser toute l'histoire liée aux grands facteurs d'instruments, parce qu'il se trouve que Villeurbanne, on l'a pas dit, mais a la particularité d'avoir accueilli des grandes familles de la facture instrumentale, notamment autour des accordéons, donc de la famille Cavagnolo, une famille d'immigrants italiens, ou de Savarese pour les cordes, des flûtes à bec à dej. Donc voilà, il y a une histoire spécifiquement villeurbanaise de la lutherie, ou plutôt une histoire de la lutherie à Villeurbanne. Donc ça faisait aussi partie des espaces qu'on avait décidé déjà avant même de se plonger dans le matériau narratif lui-même. Et le dernier espace, et Anne-Marie dit souvent, elle a complètement raison, qu'il s'agissait d'une exposition dans l'exposition, c'était l'espace monde, l'instrument dans l'espace monde, où là on a travaillé à une cartographie d'instruments de musique qui, alors comment dire ça, où la répartition géographique territoriale des instruments de musique n'était pas faite en fonction de leur supposée origine organologique, comme par exemple mettre le balafon en Afrique de l'Ouest ou l'oussi en Chine, mais plutôt de faire des correspondances entre les histoires racontées par les propriétaires de ces instruments et leur localisation dans le monde. Donc il se trouve que le balafon, on l'a plutôt mis à Caluire. Il y a quelques exemples comme ça d'instruments qui apparaissent sur cette cartographie, non pas selon des critères d'histoire culturelle et d'histoire musicale ou organologique, mais sur des critères de l'histoire spécifique de cet instrument lié à cette personne à un moment T. Donc, y a eu ce premier enjeu-là, et puis le deuxième, c'était de créer des familles instrumentales, de faire voir et sentir à travers cette cartographie le côté dynamique de l'histoire de la musique, de ne pas se cantonner à des frontières continentales, mais de montrer que les familles d'instruments, ce sont des histoires culturelles, ce sont des histoires de circulation dans le monde, des histoires de transfert culturel, et qui font que il y a des voisinages auxquels on ne pense pas quand on regarde les instruments, mais qui raconte une histoire du monde. Donc, on prend souvent l'exemple du Sheng, d'un orgabouche chinois, quand on regarde son histoire et la façon dont il a circulé à travers l'espace monde, et ben son héritier, c'est l'accordéon, le bandoneon argentin. Donc voilà, ça c'est la famille des hanches libres. Donc on a essayé de dresser des chemins de traverse historiques et organologiques qui donnent à voir les instruments de musique, mais la musique en général et les cultures de façon encore plus générale dans leur circulation, dans leur dynamique de circulation. Il y a plein d'autres questions auxquelles on n'est pas en train de répondre. Je dirais pas qu'on en tire une conclusion sur le profil mémoriel villeurbanais, comme le suggère Samuel. Déjà parce que c'était pas notre objectif. On n'avait pas pour objectif de dessiner une identité musicale villeurbanaise ou une espèce de cartographie du monde à Villeurbanne. L'idée, c'était vraiment de monter une exposition qui soit à l'image des personnes qu'on avait rencontrées. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qu'on a rencontrées étaient aussi soumises à nos propres filtres en tant que personne, en tant qu'institution. Donc, on n'a pas cherché à faire des focus sur l'histoire de l'immigration italienne. Voilà. Donc, en tout cas, il peut y avoir une notion de profil, de profil mémoriel villeurbanais à travers le travail qu'on a fait dans les archives, donc notamment autour des accordéons, qui est lié à l'histoire de l'immigration italienne à Villeurbanne. Mais ce n'était pas l'objectif pour les rencontres avec des habitants propriétaires d'instruments contemporains. Est-ce que, comme je vois qu'il est 19h10 et que l'heure tourne, est-ce qu'on pourrait montrer, dans le dossier Dropbox, plutôt le dossier scénographie, il y a trois documents et peut-être on peut montrer celui qui s'appelle APD V2, sans numéro à la fin. Et du coup,
peut-être Laura, qu'on peut.
Oui.
Tout en prévoyant de rendre un peu plus visible et concrète cette scénographie, on pourra s'appuyer dessus si besoin par rapport aux questions. Peut-être prolonger nos réponses avec les questions posées par Bénédicte Fèvre et Marie-France. Pour ce qui concerne donc cette question de l'exploitation ou de l'analyse de ces matériaux, de ces témoignages, on a commencé d'un certain point de vue à produire des analyses et aussi d'un certain point de vue des typologies en concevant l'exposition elle-même. C'est-à-dire qu'on a pu voir émerger des grands sujets, des grandes thématiques, aussi peut-être des grandes tendances. Par exemple, moi j'avais plus particulièrement travaillé la question de la place de l'instrument de musique dans l'intime, dans l'espace du logement, dans l'intimité du logement. Et je voyais ressortir deux grandes tendances qui étaient celles, concevant l'instrument de musique comme un objet aussi esthétique, donc comme un objet qui parfois d'ailleurs n'est plus joué, mais est transformé comme objet d'exposition, comme meubles parfois, mais aussi on a des gens qui vont pratiquer l'instrument de musique et le laisser à portée de main en permanence sur le bureau, sur la table de nuit, accroché au mur. Et puis une autre tendance, par exemple, d'un rapport à l'instrument de musique qui est plutôt je le protège, je le mets à l'abri, il est précieux, et je ne le sors que dans des circonstances bien particulières. Voilà, un exemple vraiment à la louche d'un type d'analyse qu'on peut faire dans un contexte où on a pu en construisant l'exposition elle-même, comme je vous le disais, mobiliser ces témoignages, les analyser, essayer d'en tirer quelques grandes tendances hein, par rapport à ce que nous ont raconté ces habitants encore une fois, les grandes thématiques émergées. On va avoir un travail, comme je vous le disais, a posteriori aussi, pour lequel on va d'abord avoir un peu plus de temps, et par ailleurs mobiliser des chercheurs auxquels on a confié justement ces matériaux, sachant que bon, nous-mêmes, étant un peu le nez dans le guidon et n'ayant pas forcément non plus aussi le temps d'aller très loin, ou la compétence, pour ce qui me concerne, c'est une découverte totale, hein, la question des instruments de musique et l'organologie. Bref, on a comme ça mobilisé un certain nombre de chercheurs, et d'ailleurs aussi d'autres auteurs, hein, qui vont avec leur propre sensibilité, auteurs de bande dessinée et une écrivaine, par exemple, qui vont aussi s'emparer de ces matériaux-là. Et là, peut-être que je te repasse le relais, Laura, sur des analyses de ces matériaux qui vont venir compléter finalement ce qu'on a pu déjà présenter.
Oui, complètement. C'est vraiment le but de cette publication sur laquelle on est en train de travailler avec un éditeur lyonnais, les éditions Libel. Juste pour revenir sur la question de la typologie, ou en tout cas notre ancrage disciplinaire ou de notre posture sur l'analyse de ces matériaux, je saurais pas l'ancrer dans un champ des sciences humaines particulier, ethnologique, sociologique, peut-être plus sociologique dans la mesure où, en tout cas, l'arrière-plan qu'on a au CMTRA, qu'on a eu depuis 3 ans au CMTRA dans ces enquêtes autour des instruments de musique, on a beaucoup pensé à Antoine Aignon, donc qui est un philosophe, sociologue. Qui est à la retraite depuis peu, qui travaillait à l'École des Mines et qui a été assez fondateur dans le milieu de la sociologie, de la musique, avec un ouvrage qui s'appelle « La passion musicale » et qui a permis de faire entrer dans les réflexions, donc dans les sciences humaines de la musique et les sciences sociales de la musique, la notion de médiation et d'attachement. C'est un ouvrage, une pensée et une personne, parce qu'elle il fait partie de notre conseil scientifique, qui nous a pas mal accompagnés en pointillé, en tout cas mentalement au moins, dans cette enquête, vu qu'on s'est vraiment intéressé à ce qui reliait des hommes à leurs instruments de musique. Et donc, comme disait Vincent, les typologies qui en ont émergé, clairement, on n'aurait pas pu les définir avant de travailler sur cette matière. Il y a des séquences de l'exposition qui sont liées à effectivement l'instrument de musique dans la vie de famille, l'instrument habitant, donc l'instrument comme mobilier, ou je vois qu'il y a une question dans cette optique-là, ou alors le mobilier utilisé comme instrument de musique, donc notamment de la vaisselle, ou un djembé qui devient table de nuit. Donc ça, c'est des choses qu'on a rencontrées et qu'on valorise aussi, qu'on a donné à entendre, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont donnés à entendre dans les cylindres que vous voyez, les cylindres marrons. Il y a des histoires de ce type-là qui sont données à entendre. On a eu la thématique des coups de foudre, en fait, avec un instrument de musique. Vraiment une rhétorique de la rencontre amoureuse et de la première fois qu'on le voit, qu'on l'entend, et où on décide qu'on va faire un bout de chemin avec. Chez les musiciens, amateurs et professionnels, il y a vraiment beaucoup de récits spontanés là-dessus, sur la première rencontre, l'émerveillement ou la difficulté à prendre l'instrument en main, les résistances, les conflits, hein, même affectifs des fois, avec l'instrument de musique. On a eu aussi la catégorie de l'instrument comme objet de soins ou à visée thérapeutique. Donc on retrouve notamment dans tout ce qui est lié au hang drum ou aux clochettes, au gong, au bol tibétain, au gong. Ça, c'est aussi des cas de figure qu'on a rencontrés. Et puis des instruments de musique qui demandent du soin et envers l'objet et envers le corps lui-même, parce que jouer d'une contrebasse, ça abîme le corps, ça demande de faire régulièrement des séances d'ostéopathie. Enfin, voilà, c'est aussi des choses qu'on a qu'on a montré dans l'exposition. Gilles qui demande est-ce qu'on a rencontré des instruments bricolés, de la buterie sauvage. Ben oui, clairement, on nous a prêté un violon bidon. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette. Alors, c'est pas de la lutherie sauvage, mais voilà, un instrument qui a une place toute particulière dans l'exposition, c'est le oud de Hassan Abdelrahman, qui a une histoire assez incroyable parce que Hassan est un musicien professionnel syrien, mais qui a commencé à jouer du oud sur des instruments de fortune fabriqués avec les moyens du bord en prison en Syrie dans les années 80. Et il nous a raconté cette histoire complètement folle. Je vous invite vraiment à venir dans l'exposition ou à consulter sa version numérique en ligne sur le RIS Plus pour écouter l'histoire de cet instrument. Mais le fait est qu'on lui a proposé de reconstituer cet instrument sur lequel il avait appris à jouer en prison et qui était fabriqué à base de mie de pain, d'eau de chaux et de fils de nylon extraits de chaussettes d'Hassan et de ses co-détenus. Et Hassan a accepté et il a reconstitué cet instrument pour l'exposition. Donc c'est pas vraiment une forme de lutherie sauvage, mais encore que si. La lutherie sauvage, elle apparaît plutôt dans l'espace de la facture instrumentale, puisque dans l'exposition, on l'a pas dit, mais il y a un atelier de fabrication d'instruments, où là sont exposés non pas des instruments qui ont appartenu à des habitants, mais des instruments qui sont voués à être fabriqués dans le cadre d'ateliers de lutherie sauvage pour les visiteurs du RIS. Et ateliers de lutherie sauvage qui sont proposés par des habitants rencontrés dans le cadre du projet. Pour revenir sur la publication dont parlait Vincent, effectivement, le but, ça va vraiment être de créer une trace de ce projet, mais qui soit réappropriée par des personnes qui n'y ont pas forcément directement participé. C'est pas un catalogue d'exposition, mais c'est une publication qui est issue de thématiques, de problématiques qui ont été rencontrées au cours du projet. Donc, par exemple, Antoine Aignon va contribuer. On a aussi fait des commandes, comme le disait Vincent, à des écrivains qui vont réécrire à partir des récits, notamment autour des pianos qui ont été rencontrés dans les formulaires, dans les questionnaires villeurbanais. Des ethnomusicologues spécialistes de cette question de l'organologie, de l'anthropologie de l'organologie, comme Luc-Charles Dominique, qui nous a beaucoup accompagnés aussi sur le projet, vont contribuer. Voilà, des musiciens experts qui ont beaucoup de choses à nous raconter sur l'histoire des luttes dans le monde vont pouvoir contribuer. Donc voilà, c'est des gens qu'on connaît de près ou de loin, qui n'ont pas forcément participé directement au projet, mais à qui on a livré des corpus de documents sonores, de photos, de bibliographies qu'on a rencontrées autour du projet. On leur livre ces corpus en leur disant voilà. Qu'est-ce qu'on a glané pendant notre enquête? Partez de cette matière-là et après, faites-en ce que vous voulez, quoi. Le lien pour la visite numérique, Villeurbanne est loin, oui. on va le mettre dans le chat tout de suite. C'est sur le site du RIS+. C'est une version numérique qu'on a mise en œuvre avant que l'expo puisse être officiellement ouverte.
Comment ça, Villeurbanne est loin? Tout est relatif.
Je ne sais pas si Bénédicte Lefebvre, mais j'imagine que Villeurbanne peut être loin.
Peut être loin, absolument, c'est vrai. Peut-être quelques mots pour essayer de répondre à la question de Maïfrance sur l'impact de ce projet sur les participants. Alors, ce qu'on peut peut-être commencer à dire, c'est qu'on suppose qu'ils s'en sortiront pas tout à fait indemnes, comme nous d'ailleurs, de cette aventure-là. Comme je le disais, déjà par rapport aux interactions assez riche dans le sens où parfois c'est aller loin, c'est aller jusqu'à effectivement je reviens avec un instrument de musique que j'ai choisi de vous confier. Alors là où c'est toujours difficile effectivement d'avoir une bonne perception de l'effet d'un projet. Il faudrait, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est intégrer d'emblée effectivement du temps et des outils méthodologiques pour évaluer cette question de l'effet de l'impact. Bon. Toujours est-il qu'on n'a aussi pas été avantagé par le contexte, même si encore une fois on a cette chance-là de pouvoir ouvrir l'exposition, de pouvoir faire des ateliers. On a pu faire pratiquement sans interruption, sauf encore une fois au moment du grand confinement, mais des rencontres avec des scolaires, par exemple. Ça, c'est quand même précieux. Bref, on n'a pas eu autant d'occasions, en tout cas, de réinviter, finalement, les gens qui ont collaboré, qui ont contribué à cette aventure. Ça aurait été tout bêtement un vernissage, voilà, où on aurait bien sûr rassemblé une bonne part, je pense, des témoins, des contributeurs, des prêteurs. Voilà, on essaiera peut-être de faire un message, mais voilà, c'est des moments aussi qui sont précieux pour savoir effectivement comment c'est perçu, est-ce que vous vous y retrouvez finalement dans cette histoire-là, la manière dont on raconte ce que vous nous avez confié, dont on le montre. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Maintenant, effectivement, progressivement, on voit que les gens ont compris qu'on était ouvert, et puis on arrive régulièrement à croiser des contributeurs, des participants. Mais voilà, ce n'est pas aussi simple qu'on l'imaginait, même si ce n'est jamais simple, encore une fois. Et puis, bon, voilà, effectivement, sur cette question des retours d'expérience, quand on a, par exemple, des gens qui ont participé à l'enquête, qui ont prêté des instruments et qui, par ailleurs, interviennent parce qu'ils vont faire un atelier de fabrication de derbouka, ça se voit et ça s'entend qu'ils sont partie prenante du projet. Ils vont faire la visite de l'exposition et c'est sûr que cette visite-là, ils ne la font pas comme on peut le faire, nous, avec les médiateurs du RIS. Ils y apportent leur touche et ils sont acteurs, effectivement, on s'en rend compte. Les deux, trois fois où on a pu, justement, faire intervenir des contributeurs dans un espace qui accompagne l'exposition, en l'occurrence des ateliers de facture instrumentale. Et puis peut-être un petit mot sur la suite. Alors, c'est toujours compliqué ça. C'est toujours... Oui, désolé pour la personne qui habite Lille. Oui, Lille, c'est loin. Même si, si on en croit Emmanuel Macron, finalement, Villeurbanne n'est pas si loin, puisqu'il a confondu, à un moment donné, au début de son mandat, Villeneuve-d'Ascq et Villeurbanne. Bon, je referme la parenthèse. Est-ce que... oui, la question effectivement des suites. On aimerait toujours, enfin dans nos fonctionnements, là je parle RIS, hein, dans nos fonctionnements qui sont de consacrer finalement chaque année notre saison à une thématique qui permet de revisiter un petit peu différemment à chaque fois, de varier les angles d'approche de ce territoire, de son histoire, de ses cultures. Tout l'enjeu c'est de garder le fil quand même, c'est de ne pas faire en sorte que voilà, dans la succession des ans, on efface ce qu'on a pu faire, les liens qu'on a pu nouer. Bon, c'est jamais simple, on essaye de le faire, et dans l'idéal, c'est sûr qu'on aimerait que la collecte se poursuive. C'était d'ailleurs un petit peu une de nos envies, une de nos ambitions au départ. Je ne sais pas si on aura finalement cette capacité, en tout cas le partenariat lui-même, il va se poursuivre. Je laisserai peut-être Laura en dire un mot sur justement cette interconnaissance qui s'est encore accrue et qui permet de plus facilement travailler ensemble et de plus facilement aller à la rencontre de ces habitants qui sont détenteurs de un projet où il y aura de la collecte, hein, la chorale intergalactique, dont tu parleras mieux que moi, Laura, autour de la collecte de chants et de traditions musicales. Bref, on va poursuivre peut-être sous d'autres angles, pas forcément sous l'angle des instruments, mais en tout cas sous l'angle de ces patrimoines culturels autour de la musique. Oui, on sera amené à poursuivre.
Oui, bah je rejoins, j'ai changé de salle, vous voyez, j'ai un fond jaune là maintenant. Oui, bah effectivement, le projet Instrument Voyageur, il a vraiment été pensé dès ses débuts comme la mise d'un pied à l'étrier à un partenariat qu'on souhaite le plus durable possible. Dans les années qui viennent, je pense que ça va effectivement se concrétiser à travers un projet de chorale intergalactique villeurbanaise, mais dans laquelle les instruments ne seront pas absents. La chorale intergalactique, c'est un intitulé qui existe déjà dans nos projets au CMTRA, vu qu'on l'a On est en train de la mettre en œuvre plutôt à Villefranche-sur-Saône, dans le quartier de Belleroche. Mais évidemment, tous ces contacts qui ont été tissés avec les habitants, ils vont constituer des tremplins, des relais, des zones de résonance complètement essentielles pour la suite des projets menés en partenariat ou pas, d'ailleurs. Oui, la deuxième chose que je voulais dire sur est-ce que les prêteurs viennent voir l'exposition, ben, comme l'a dit Vincent, c'est un des regrets mais auxquels on va pouvoir répondre, je pense, d'une façon ou d'une autre d'ici la clôture de la saison, parce que l'exposition sera accessible quand même jusqu'au fin septembre prochain, donc il y a encore le temps de faire pas mal de choses. Notre objectif, c'était vraiment de partir du vernissage pour... que tout le monde découvre l'exposition en même temps. Ça n'a pas été possible, il n'y a pas eu de vernissage et il n'y en aura probablement pas. En revanche, les montages sonores qui incluent les voix des personnes rencontrées leur ont été envoyées pour vérifier que ça leur allait bien. Et à cette occasion-là, on a souvent envoyé des photos de l'expo ou une invitation à y aller ensemble, mais voilà, ça reste quelque chose de ponctuel qui a pas pu bénéficier, enfin en tout cas qui a pas pu concerner l'ensemble des habitants rencontrés. L'autre point, c'est pas un pis-aller parce que c'était quand même un moment très important dans la rencontre des habitants avec l'exposition. Ça a été tous les moments de remise, de dépôt des instruments à Orize. Donc là, c'est vraiment Anne-Marie Doledec, la responsable de l'exposition, qui a mené ce gros travail de réception des objets, de leur conservation, en attendant leur accrochage avec des normes d'accrochage, voilà, de sécurité des objets très, très, très complexes. Mais les habitants sont venus déposer eux-mêmes leurs instruments. Donc ça a été une forme de rencontre avec l'exposition juste avant son ouverture, qui, je pense, a donné corps aussi à la rencontre et à l'usage qu'on a fait de leurs récits et de leurs instruments. Oui, ils seront au moins obligés de revenir à la fin, les prêteurs. Sinon, le RIS va vraiment se transformer en musée de musique.
Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des nombreuses questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, c'est vrai que les photos sont superbes. Ça donne aussi envie d'aller voir l'expo. Et voilà, je ne sais pas si d'ailleurs vous avez travaillé avec un photographe ou comment ça s'est passé pour ces photos.
Celles de l'exposition, oui. Elles ont été faites par... photographe Bertrand Godillière, c'est ça, Vincent?
C'est ça, oui, Bertrand Godillière du collectif, ouais. Du collectif dont le nom échappe même. Oui.
Ouais, vraiment un photographe professionnel. Ouais. L'exposition de la photo de l'affiche a été faite par Bertrand Godillière et ne s'est pas faite pendant un entretien. Ce sont toutes les photos de l'expo ont été faites après coup, après entretien. Les photos que vous avez vues passer, ce sont des photos de collecte qui ont été réalisées par le CNTR, mais ce ne sont pas des photos professionnelles qu'on pouvait mobiliser dans le cadre d'une scénographie.
Oui, c'est très riche aussi de voir l'intérieur des personnes, etc. Ben, merci beaucoup, en tout cas c'était très clair et merci d'avoir décortiqué vraiment ce projet-là, autant sur le point de vue méthodo que voilà, sur le contenu musical et de musicologie. C'était vraiment passionnant et très clair, et votre ping-pong était très, très enrichissant aussi. Donc merci beaucoup à vous et puis merci aux participants et participantes qui ont été très, très actifs et actives. Merci beaucoup. Je vais clore donc cette séance et puis je vous donne rendez-vous donc pour ceux qui le souhaitent également pour notre prochain. Donc cette séance sera convertie en podcast. Voilà, dès le début de semaine prochaine, il sera accessible sur notre site. Donc si vous voulez aussi réécouter cette séance ou la faire plutôt écouter à d'autres d'autres personnes que ça pourrait intéresser aussi, n'hésitez pas voilà, à diffuser le lien de cette séance qui sera enregistrée en podcast. Et je vous donne rendez-vous aussi donc, le 1er avril prochain pour une séance sur le projet Culture Inclusive, qui est un projet sur l'inclusivité des projets culturels et des institutions culturelles à Montréal, où voilà, on va avoir le point de vue d'un chercheur québécois. Ils sont vraiment rompus aux pratiques participatives au Québec, voilà, avec des approches un petit peu différentes, mais très complémentaires des nôtres. Donc voilà, je vous invite à participer également. Et merci beaucoup, Laura et Vincent.
Merci pour l'invitation, Hélène.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis c'est toujours très agréable, ces moments de pause et de bilan sur les projets qui nous ont occupés nuit et jour. Donc, merci beaucoup.
Ben merci d'avoir pris le temps, parce que ce n'est pas toujours évident de le trouver aussi. Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde.
Et ben, très bonne soirée à tous.